Chapitre 74. Alors qu'elle traversait les couloirs de surplomb du monde, prête à tuer la maîtresse de la vie, Nietzsche aurait juré être un spectre noir au corps empli de lames de rasoir. Dans un abîme de vide, son cœur ressemblait à la tanière du buveur de vie, un puits d'obscurité au milieu d'un océan de ténèbres. Dans la main droite, elle serrait la flèche imprégnée du sang de Chardon. Le poison requis prenait sa source dans un amour dangereux dont la magicienne avait jusqu'au bout refusé d'admettre l'existence. Désormais, son cœur n'était plus qu'une plaie à vif. En se sacrifiant, la courageuse petite orpheline avait forcé son amie à accomplir un acte atroce qui aurait pour conséquence la victoire de la vie et de la beauté. Dans l'âme de Nietzsche, cet enfant avait su voir quelque chose dont la magicienne ignorait elle-même l'existence. Sentant qu'elle serrait trop fort la flèche, Nietzsche se força à détendre ses muscles. Ce n'était pas le moment de briser la hampe. Impossible de gaspiller une arme payée à un prix si élevé. Le sang de Chardon. En temps normal, Nietzsche aurait étouffé ses sentiments, les repoussant dans les lames de son âme. Aujourd'hui, elle avait besoin d'eux pour aller jusqu'au bout de sa mission, parce que l'amour la guidait. Et cet amour était le poison. Dans le cas présent, comme Victoria s'en apercevrait bientôt, il s'agissait d'une toxine mortelle. Alors qu'elle se préparait à sortir du complexe, la magicienne vit que sa robe noire était tachée de sang. Encore plus de poison. En marchant, elle n'accorda aucune attention aux érudits et aux mémoristes qui la regardaient comme leur ultime recours contre Victoria. Si Chardon s'était acquitté du prix de la victoire, la maîtresse de la vie saurait bientôt ce que voulait dire le mot « vengeance ». L'avenir et le destin dépendent à la fois du voyage et de la destination. Au détour d'un couloir, dans une tenue de voyage neuve, son épée au côté, Bannon attendait la magicienne. « Je suis prêt à t'accompagner, » dit-il, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. En aussi piteux état, Nathan se tenait aux côtés de son disciple. « Même si mon don me fait défaut, Bannon et moi, nous sommes de redoutables escrimeurs. Tu le sais très bien. On vient avec toi. » « Chardon a tout rendu possible, » ajouta Bannon. « Nous devons y aller ensemble. » Un long moment, Nietzsche dévisagea les deux hommes. « Non, j'irai seul. C'est mon combat. Chardon a fait sa part et je dois faire la mienne. » En réalité, Nietzsche ne pouvait pas s'autoriser à avoir besoin de ses amis. L'arc pendu à son épaule, elle n'emportait qu'une seule flèche parce qu'une autre ne servirait à rien, c'était écrit. « Désolé, mais j'ai tout ce qu'il me faut. » Après un long moment de tension solennelle, Nathan sembla comprendre. Prenant Bannon par l'épaule, il l'empêcha de réagir avec sa juvénile spontanéité.
« Ça n'a rien à voir avec nous, fiston. Tu as amplement fait tes preuves. Notre magicienne a besoin d'agir seule. »
Perdu, Bannon baissa les yeux sur son épée. Quand il les releva et croisa le regard de Nietzsche, il se pétrifia stupéfié par ce qu'il y lut. « Nos cœurs sont avec toi, magicienne, » dit-il en reculant d'un pas. « Je sais que tu réussiras. » Nathan prit une grande inspiration et la relâcha lentement.
« L'arme la plus mortelle du monde, c'est Nietzsche, nous le savons. »
Sans regarder en arrière, la magicienne marcha jusqu'à l'ouverture au fond de la mesa. Devant le mur qu'elle avait elle-même érigé pour défendre surplomb du monde, elle invoqua sa magie et se fraya sans peine une ouverture. À présent, les choses sérieuses commençaient. Dehors, le désastre primitif continuait à se répandre. Poussant à l'œil nu, des buissons atteignaient une taille incroyable avant d'exploser en un nuage de spores. Partout, des mouches et des moustiques bourdonnaient par millions, attirés par l'odeur fétide de la forêt. Pour résoudre un problème, Victoria avait créé une ignominie 10 fois pire que la balafre. Comme des serpents, les lianes se tortillaient, étouffant sans pitié la végétation concurrente. Bien trop abondant, le pollen formait des rideaux de brouillard à l'odeur nauséabonde. Contre la paroi de la mesa, des tentacules végétaux venaient se fracasser comme des vagues, l'armée délirante et hors de contrôle de la vie. Oui,
Mais Nietzsche était la maîtresse de la mort.
« Écartez-vous !»
ordonna-t-il. Les deux mains tendues, elle déchaîna son feu de sorcier. Comme des vautours qui ont repéré une charogne, les flammes se jetèrent sur les ignobles végétaux et les carbonisèrent. Leur sève gonflant à cause de l'incroyable chaleur, d'énormes arbres explosèrent. Une pluie d'éclats de bois déchiqueta les plantes environnantes. Après s'être ouvert un chemin, Nietzsche avança au milieu du carnage sur un sol noir comme de l'encre. Pourtant, avec l'obstination de la démence, de nouvelles pousses jaillirent de ce terreau impur. Des lianes et des tiges se tendirent vers les chevilles de la magicienne, avides de s'y enrouler. Elle les frappa avec sa colère vengeresse, les calcinant sur le champ. La chasse était ouverte. Victoria ne jouerait pas au chat et à la souris. Nietzsche le savait. La mémoriste magicienne, gonflée d'une vaine fécondité, désirait tuer une rivale, sinon elle n'aurait pas envoyé le Shaxi. Pour trouver sa cible, Nietzsche devait gagner le cœur de la jungle primitive, là où rôdait la plus grande folie. Alors que des végétaux morts craquaient sous ses semelles, la magicienne vit que la jungle repassait à l'assaut avec ses tentacules végétaux et ses racines. Pour se défendre, elle invoqua des bourrasques qui déracinèrent des arbres, firent s'envoler des buissons et dévastèrent des broussailles. Devenu l'œil d'un cyclone guerrier, Nietzsche s'assurait que rien ne ralentirait sa progression. Les notions de distance et de temps n'avaient plus aucune importance. Elle savait où elle allait. Déchaîner autant de pouvoir aurait pu l'affaiblir, mais au plus profond d'elle-même, le chagrin et la rage agissaient comme une source de jouvence. Quand le chemin lui parut assez dégagé, elle fit retomber le vent et avança de nouveau dans la terrifiante profusion de vie devenue folle. Après la leçon qu'elle venait de leur donner, les plantes survivantes semblaient ne pas en mener large. Les insectes prirent le relais. Par millions, des guêpes, des moustiques, des sauterelles. Nietzsche ne leur accorda presque pas d'attention. Quand ce brouillard noir s'abattit sur elle, d'une simple pensée, inutile de recourir à une gestuelle complexe, elle força une multitude de petits cœurs à s'arrêter de battre. Telle une averse noire, les insectes de Victoria s'écrasèrent sur le sol. Comme si elle était impressionnée, la jungle cessa de bruire et de bouger. Mais la magicienne ne tomba pas dans le panneau. La partie n'était pas terminée, loin de là. Devant elle, des broussailles ondulèrent, puis trois silhouettes apparurent. De très jolies femmes naguère. Audrey, Laurel et Sage. Métamorphosées et possédées par la jungle, elles avaient désormais la peau verte, des yeux à facettes comme ceux des insectes, et la bouche garnie de longs crocs. Resserrant les rangs, elles barrèrent le chemin à Nietzsche.
« C'est Victoria qui vous envoie ? Elle a peur de m'affronter ?»
La créature qui se nommait Laurel en d'autres temps ricana.
« Elle ne te craint pas !» Mais elle veut nous récompenser. »
Les filles de la forêt écartèrent les bras qui se couvrirent d'épines. Une sève poisseuse comme du venin en coulait.
« C'est une occasion de mesurer nos pouvoirs, » dit Sage.
« Et de nous amuser un peu, »
ajouta Audrey. Nietzsche ne prit pas son arc et ne sortit pas la flèche du carquois où elle l'avait rangée.
« Je n'ai pas le temps de jouer, »
marmonna-t-elle. Invoquant trois petites boules de feu de sorcier, elle les propulsa sur ses cibles. Audrey, Laurel et Sage eurent à peine le loisir de lever les mains, un geste défensif dérisoire. Trois explosions retentirent, leurs corps infestés de végétaux et d'insectes s'embrasèrent et elles tombèrent en cendres, en un éclair et dans une bonne odeur de flambée, pas de chair brûlée.
« La mort est plus forte que la vie !»
lâcha Nietzsche en guise d'oraison funèbre. Enjambant les trois tas de cendres, elle continua son chemin.